Bienvenue sur Légende, le seul podcast où les célébrités et les anonymes nous racontent leurs histoires les plus incroyables.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Légende Podcast.
Bonjour, je m'appelle Mathieu Courdès, je suis photographe et je retourne chez Légende pour vous parler de mes histoires de tournage dans la brousse.
Eh ben voilà, merci beaucoup, re-bienvenue.
Merci.
On s'était fait une émission en janvier dernier, on avait tourné il y a longtemps, on l'a diffusé il y a quelques mois, et vous avez été extrêmement nombreux à être intéressés par les histoires de Mathieu, qui est photographe animalier, qui fait plein de belles images et qui nous racontait plein de choses, notamment sur les gorilles, si tu ne dis pas de bêtises. Et on avait reçu un nombre de messages, mais absolument incroyable, réinvite-le. On s'était écrit et t'es reparti, là tu viens de rentrer d'expédition, c'est ça?
C'est ça, je reviens d'un tournage en Afrique du Sud.
Okay.
J'y allais pour... alors, pour comprendre cette histoire de tournage, il faut repartir 5 ans en arrière, où je m'étais rendu en Afrique du Sud pour filmer un événement naturel rare, la coalition de 6 lions mâles qui vivaient ensemble. Il faut savoir que c'est quelque chose de rarissime, puisque normalement les lions sont solitaires, ou alors décident d'avoir une famille de lions avec leurs lionceaux, et à la limite, il y a 1 ou 2 mâles avec eux. Donc là, ils étaient connus dans toute l'Afrique du Sud, c'est 6 mâles qui vivaient entre eux. Et j'y allais, donc, du coup, pour savoir, faire un photoreportage sur cette famille et savoir comment ils vivaient ensemble, ces 6 frères. Et puis, ils avaient...
Ah, c'est des frères.
C'est 6 frères lions qui vivaient ensemble.
Ouais, ils ne se tuent pas entre frères, en général, à part eux?
Normalement, ils se tuent, ils se griffent. Et eux avaient plutôt une diplomatie douce entre eux. Ils arrivaient à chasser ensemble, ils arrivaient à vivre ensemble. Bon, dès qu'il y avait des femelles, ils se mettaient un peu sur la gueule. c'est les lions. Mais en tout cas, ouais, c'était magnifique de les voir, les 6, longer la route avec leur belle crinière. Et j'ai réussi à les photographier.
Ah, là,
et ces 6 mâles avaient, au centre de leur territoire, une montagne. Et cette montagne est un peu magique puisqu'elle attire les lions depuis des siècles et des siècles, à tel point que les locaux l'ont nommée Ngalataba, la montagne aux lions. Et donc ça, c'était il y a 5 ans, et je me suis rendu sur place il y a quelques jours pour savoir ce qu'était devenue cette coalition et est-ce que cette montagne attirait autant les lions.
Ah là, génial. Il est incroyable ton boulot, toi. Tu pars, tu voyages, tu visites des pays différents, etc. Tu sais combien de temps tu es en dehors de la France, sur une année par exemple, avec tout ça?
Bon, j'essaye de faire plusieurs missions à l'intérieur d'un voyage, plusieurs tournages à l'intérieur d'un voyage. Donc, en général, je pars 5-6 fois par an, en Afrique, en Asie. Là, je vais partir au Canada dans quelques semaines, là où il y a une faune intéressante. Et moi, dans mon travail, je me suis spécialisé dans les animaux en voie de disparition, les animaux menacés.
Le lion, est-ce que c'est une espèce menacée aujourd'hui? Est-ce que c'est considéré comme espèce menacée?
Bien sûr. Il y a plus que 20 000 lions en Afrique. Un monde sans lions, c'est possible, malheureusement. Les grands dangers sur les lions, ça va être le commerce de ces organes génitaux.
Ah oui?
Voilà, il y a un marché asiatique, il y a une forte demande du marché asiatique sur les pénis de lions. Ça va être aussi les animaux de compagnie, certains braconniers qui vont capturer des lionceaux et qui vont les vendre ensuite aux Émirats Arabes Unis. Ça va être aussi l'une des grandes menaces, c'est le rétrécissement de son territoire. En fait, on a les populations qui augmentent dans ces régions du monde et du coup qui empiètent sur le territoire des lions. Et on a souvent des conflits entre le bétail et les grands prédateurs comme les lions. Et malheureusement, les populations de lions sont en train de diminuer petit à petit en Afrique.
Et là, tu dis qu'il y a plus que 20 000 aujourd'hui. Ça a baissé très rapidement. Il y en avait beaucoup plus il y a 10 ans, par exemple?
Il y en avait plus, il y a un siècle, il y en avait beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Et c'est dans les années 60, 70, 80 que les populations de lions ont drastiquement baissé en Afrique.
Et là, tu parlais des 6 lions que tu avais suivis. Il s'appelle Cridence, le lion dominant, c'est ça?
Alors,
lui, c'est le chef des 6?
C'est ça. Le mâle dominant de cette coalition de 6 s'appelle Cridence. Sauf que ça, c'était il y a 5 ans. Moi, je suis retourné il y a quelques jours. Et 5 ans, 6 ans dans la vie d'un lion, c'est pratiquement la moitié de sa vie. Un lion à l'état sauvage vit rarement plus de 12 ans.
Ah, c'est vrai, okay. Ah, c'est assez rapide.
C'est ça. Dans un zoo, ça peut vivre plus de 20 ans. Mais à l'état sauvage, il y a les confrontations avec les autres mâles, il y a la difficulté de trouver de la nourriture, il faut chasser, il faut être dans une belle forme athlétique. Et quand je suis revenu, là, il y a quelques jours, j'ai appris que 4 des 6 lions étaient morts.
Ah, waouh.
Voilà. Mais il y avait toujours Credence et son frère, qui est une sorte de porte-flingue pour lui. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il va y avoir un buffle, un éléphant qui va venir sur le territoire de Credence, il va appeler son frère et ils vont venir se taper contre les menaces. Ah non, mais c'est le roi lion. J'ai assisté vraiment.
C'est roi lion, c'est génial.
Sauf que, et c'est là où on a eu une chance inouïe, dans notre malchance, c'est quand on est arrivé sur le territoire pour le tournage, tous les guides nous ont dit « Bon, on a un petit problème, on n'a pas vu Credence depuis plusieurs jours. » Bon, je me suis dit, c'est la nature. Après tout, moi, je vais rester quelques semaines et je vais avoir des chances de le filmer. Et les jours ont passé, et Credence n'était toujours pas là. Moi, ben, pour mon tournage, ça pose problème, quoi. Et au même moment, il y a deux frères concurrents qui ont traversé la rivière qui sert de frontière au territoire de Credence pour prendre le territoire de Credence. Sauf que Credence n'était plus là. Et donc, au fur et à mesure du tournage, on a vu ces deux frères avancer petit à petit vers la montagne qui est le centre du territoire de Credence. Et parmi ces deux frères, il y a Belzébuth, qui est connu, c'est vrai, qui est connu dans toute la région comme le lion qui n'a jamais perdu le moindre combat.
Ah, waouh, OK.
Et le problème, c'est que si ces deux lions arrivent sur le territoire de Credence et trouvent la famille de Credence, à savoir ces lions, ces petits lionceaux, ces ados, bah, Belzébuth les tuera tous. Et donc, on est arrivé à ce moment-là, à savoir la fin d'un règne, quelque chose qui arrive une fois tous les 10 ans dans la vie d'un lion. Et du coup, on était là pendant ce tournage.
Ah, waouh, ouais. Et t'as assisté au... On va pas spoiler, mais...
Alors, le jour où on est parti...
Comment en dire sans trop en dire.
Voilà, c'est ça. Mais finalement, dans le documentaire, on raconte plein de choses. Donc, ce que je te dis, je peux te le raconter. Le jour où on est parti, on n'avait toujours pas vu Credence. En revanche, on avait vu ses deux frères, on avait vu la famille avec les petits. Et je reçois un vocal d'Oscar. Oscar, c'est un ranger qui vit toute l'année dans la réserve, qui me dit « Mathieu, Credence est revenu. Il était parti de l'autre côté de la réserve pour aller chercher son dernier frère survivant, son porte-flingue. Il est allé chercher son plus vieux fils pour aller se battre contre les deux lions de la réserve. »
C'est incroyable.
C'est incroyable. Donc là, au moment où on se parle, dans les jours à venir, va y avoir une confrontation entre Belzébuth et son frère, et Credence et son frère.
Exceptionnel. C'est vous, tu arrives à rendre passionnant quelque chose qu'on ne voit pas. Tu vois, déjà, ouais. Tu me racontes, juste en me racontant, déjà, c'est dingue. Ça, tu vas le sortir où, le documentaire ?
Alors, ça va sortir sur ma chaîne YouTube. J'ouvre ma chaîne YouTube, parce que sur TikTok, j'avais plein de messages de gens qui me disaient il faut que tu fasses des formats plus longs, tout ça. Et donc, l'histoire de. Cette vidéo qui va s'appeler La montagne au lion va sortir sur ma chaîne YouTube.
On vous met le lien en cliquable sous la vidéo si vous voulez vous abonner à la chaîne de Mathieu Courdès. Comme ça, vous n'avez plus qu'à cliquer juste en dessous dans la description de la vidéo. Et alors, pourquoi, juste petite question sur cela, tu parles de Credence mal dominant. Qu'est-ce qu'il a de si particulier, Credence ?
Alors, déjà, quand je l'avais vu il y a 5 ans, parce que du coup, j'ai déjà pris Credence en photo il y a 5 ans, il avait une gueule très particulière. Plus gros que les autres, mais surtout, c'est un chanteur. C'est-à-dire que c'est un lion, quand il fait son rugissement, ça s'entend sur des kilomètres et des kilomètres.
Ah, c'est vrai.
Et il a un rugissement très particulier, très grave, très rauque. Et surtout, là où il est attachant, parce que pendant le tournage, j'étais avec des guides qui connaissent Credence depuis des années. Et ils étaient un peu déçus de voir que, même tristes, que c'était la fin de son règne. Et là où Credence est touchant, c'est que c'est un lion qui a un comportement avec ses bébés, avec ses lionceaux, très différent des autres lions. Il va jouer avec, il va utiliser sa queue comme jouet, par exemple. Il va leur donner des petites baffes, mais très gentiment. Et les lions font des câlins aux gros lions mâles. Et ça, c'est quelque chose d'assez rare à voir dans la nature.
Ils chahutent pas, normalement, avec les enfants ?
Ils gardent leur distance, quoi. Mais là, les lionceaux venaient vers Credence, frottaient sa tête contre lui. Et là, quand j'ai filmé les lionceaux et les grandes lionnes de Credence, il y a quelque chose de très particulier dans cette famille de lions. Ils se font des câlins tout le temps. On sait que l'interaction physique entre les lions est très importante parce que ça permet de resserrer les liens. Il faut savoir que le lion, c'est le seul félin avec un comportement social. Tous les félins sont solitaires. Mais les lions ont besoin de créer du lien comme ça. Et à chaque fois qu'on les voyait, les lionceaux et les femelles, c'était câlin sur câlin, quoi. Et c'était genre génial à filmer, c'était extraordinaire.
Ah, ça devait être fou. Ouais. Et ils vivent avec combien de lionnes, par exemple ? Credence, il a combien de lionnes dans son troupeau en tout ?
Alors là, de mémoire, Credence a au moins, je dirais, 7-8 lionnes à lui et au moins une vingtaine de lionceaux.
Ah ouais.
Donc, grande famille, une grande famille de lions.
Et qui peut s'accoupler avec les lions? Tu dis qu'il y a ses frères. Est-ce que ses frères aussi s'accouplent avec les lions?
S'ils essayent...
C'est vrai?
Ah ouais, ils se font défoncer. Ah ouais, ouais, ouais. Accédant, ils rigolent pas avec ça. Ah, et même tous les lions mâles qui sont dominants avec un groupe et donc avec leurs femelles, ils veulent pas que leurs frères s'approchent des femelles. Il y a que lui qui a le droit de s'accoupler avec les femelles, et son rôle, c'est de protéger le territoire.
Putain, c'est fou quand même ça. Ça, je ne savais pas, tu vois. Et est-ce que parfois, les cridances, par exemple, les lions dominants, mâles, peuvent se faire un peu victimiser par les lions? Est-ce que parfois, ils tombent à 7 ou 8 dessus en disant stop, tu vois? Est-ce que parfois, ils peuvent être dominés?
Alors, tu sais, je t'ai parlé de ces deux frères de la rivière qui allaient sur le territoire de cridance. En fait, à un moment, on les a filmés, ces deux frères, avec des femelles de cridance, en train de s'accoupler avec des femelles de cridance. Donc, provocation ultime. Si jamais ces deux frères trouvent la famille avec tous les bébés, ils tueront tous les bébés. Et à ce moment-là, parfois, les lions se mettent devant les lions méchants, entre guillemets, pour protéger les petits. Mais les lions mâles sont tellement puissants, tellement forts, qu'en deux baffes, les lions sont... Enfin, recule ou grogne, mais c'est impossible.
Les autres lions, parfois mâles, vont tuer les bébés des autres.
Ouais,
ça, pourquoi?
Ça, je l'ai vu une seule fois dans ma vie. Et c'est le seul moment de ma vie où j'ai pas eu le courage de prendre une photo. C'était trop triste. C'était glacial. Rien que d'y penser, les poils qui...
Ça devait être difficile parce que tu dois avoir envie d'intervenir, non? Enfin, tu dois avoir envie d'aider le petit lionceau.
Ouais, tu sais, des scènes difficiles dans la nature, j'en ai vu pas mal. J'ai vu des hyènes attendre qu'une girafe mette bas pour attaquer le girafon. J'ai vu un léopard en train de manger une carcasse d'éléphanto. Mais c'est la nature. On sait que si ces hyènes ne mangent pas le girafon, bah, peut-être qu'elles vont mourir de faim. Pareil pour le léopard. Mais là, voir cette scène, je me souviens, c'était dans le désert du Kalahari. On était sur la route. Tu veux que je te raconte ?
Oui, vas-y, si tu veux, pour comprendre.
On était sur la route, et en face de nous, on voit peut-être l'un des plus beaux lions que j'ai vu de ma vie. Pas forcément très gros, mais avec une crinière noire, sombre, qui touchait pratiquement le sol. Et sur sa crinière, il y avait du rouge, comme du sang. Et en général, quand les lions ont ça, c'est qu'ils viennent de manger. Sauf que lui avait le ventre normal, avait plutôt une silhouette athlétique. Et il avait une démarche assez particulière, ce lion, c'est... Il trottinait un peu comme s'il était attiré par quelque chose. Et à un moment, il s'arrête, il regarde sur la gauche, et là, on voit trois lions qu'on n'avait pas vus. C'est lui qui nous a indiqué la position des lions, qui sont en train de grogner. Et là, le lion se précipite vers les lions, se bat avec, trois contre lui, mais lui, sans aucun problème.
Ah ouais, c'est vrai. Les mâles ont beaucoup plus de puissance que les lions.
Coup de croc. Un gros mâle, ça pèse 250 kilos. Okay. Un gros mâle lion. Une grosse femelle, ça pèse 150 kilos.
Ah oui, d'accord. Ouais. Ah oui, donc c'est.
Et donc, on voit ce gros lion arriver vers les femelles, se battre avec elles. Et en fait, au pied de ces femelles, il y a les petits. Et en fait, on a compris que ce mâle allait prendre le territoire d'un autre mâle et que le rouge qu'il y avait sur sa crinière, c'était sans doute le sang du mâle à qui appartenaient les
Ah femelles. Oui, oui.
Voilà. Et j'ai vu cette scène où les petits sont terrorisés. Le mâle s'approche, ouvre la gueule, prend la tête du bébé dans sa gueule et serre. Et il lui enlève la vie, quoi, vraiment.
Instantanément.
Le lionceau meurt sur le coup. Et c'était une ambiance glaciale, horrible.
Parce que c'est même pas pour le manger.
Non, c'est juste pour plusieurs raisons. Déjà, pour pas qu'il ait le sang d'un des concurrents qui grandissent avec lui.
Pour pas qu'il ait de lignée, pour arrêter la lignée du lion mâle.
Pour arrêter la lignée, pour provoquer les chaleurs des lions. En tuant les bébés, bah, les lions vont vouloir refaire des bébés et du coup, elles vont être obligées de s'accoupler avec le nouveau mâle. Et une troisième raison qui est un peu, pas franchement scientifique, mais que certains guides donnent, c'est pour éviter plus tard une vengeance des lionceaux qui quitteraient le troupeau et à la façon d'un roi lion, un peu Simba qui irait affronter Scar.
Ah, qui revient quelques années plus tard.
Bon, j'ai du mal à y croire, mais elle est belle cette raison.
Parce qu'ils ont une mémoire, les lions? En réalité, tu crois? Un petit peu quand même?
C'est difficile à dire la notion de mémoire chez les félins. On sait que chez les éléphants, il y a vraiment une mémoire. Par contre, je pense qu'il y a quelque chose lié à l'odeur. C'est que chaque individu a sa propre odeur. Eux sentent beaucoup mieux que nous, mais c'est même pas comparable. C'est des dizaines de milliers de fois mieux que nous. Et du coup, je pense qu'ils identifient les différents individus de cette façon, grâce à l'odeur.
Est-ce qu'ils peuvent reconnaître, est-ce qu'un lion peut reconnaître son fils qu'il a perdu de vue des années plus tard? Est-ce qu'il va savoir que c'est son fils pour ne pas se battre avec lui et vice-versa?
Ça, c'est très compliqué à savoir, mais j'imagine que oui.
Parce que dans le Roi Lion, il se reconnaît.
Dans le Roi Lion, il y a plein de bêtises. Hein.
C'est pas un reportage animé. Non. Ça reste un Disney, je crois.
On pourra faire toutes les erreurs du Roi Lion, mais le Roi Lion est censé se passer en Afrique de l'Est, Tanzanie, Kenya, puisqu'on est dans les grandes plaines ouvertes, oui. Et pourtant, il y a des suricates. Alors qu'il n'y a pas un suricate qui a foutu les pieds en Afrique de l'Est.
Ah, c'est vrai?
Non. Les suricates, c'est dans le désert du Kalahari. Et même Zazu, qui est censé être bleu avec un beau bec rouge, les Kalao, l'espèce de Zazu, ne ressemble pas à ça. Enfin, mais bon, ça reste un très très beau dessin animé.
Alors, comme tu t'y connais extrêmement bien, y a plein de rumeurs sur les animaux. On a tapé un peu animaux voilà, de la jungle, mais pas que. On a cherché vraiment des rumeurs sur les animaux en général. Tu vas me dire si c'est vrai ou si c'est faux d'après toi. On a lu que les rhinocéros étaient aveugles.
Oui, tout à fait.
Incroyable, ils ont des yeux pourtant.
Ouais, ils voient très très mal. En revanche, ils ont un odorat et une ouïe surdéveloppée. Ils se repèrent comme ça, mais le fait de ne pas bien voir, ça fait d'eux des animaux très routiniers. C'est-à-dire que tous les jours, ils vont faire plus ou moins le même parcours, aller au même point d'eau, manger plus ou moins les mêmes plantes. Mais effectivement, les rhinocéros sont quasiment aveugles. Ouais.
Ah wow, bah, tu vois, j'apprends quelque chose. Les hyènes sont meilleures chasseuses que les lions.
Ouais.
Pareil que c'est très très fort en chasse.
Voilà, parmi les stéréotypes, on pense que les hyènes sont des charognards. Elles peuvent manger de la charogne, elles mangent de la charogne.
Mais un comme, animal mort, en gros.
Voilà, ouais. Mais comme un lion ou un léopard, s'il a à côté de lui une carcasse fraîche qu'il n'a pas chassée, il va quand même la manger. Mais les hyènes, dans certaines régions d'Afrique, sont d'excellentes chasseuses. Elles réussissent à attraper leur proie 80% du temps, alors qu'un lion, c'est 20 à 25% du temps. Donc les hyènes, mais par contre, ce n'est pas du tout la même façon de chasser. Les lionnes et les lions sont des sprinteurs. Les hyènes, elles, vont épuiser une proie, parfois sur des chasses qui durent 24-48 heures.
Ah ouais, il y a des vidéos où ils attaquent des lionnes, 15-20 hyènes qui tombent dessus. Alors parfois, la lionne arrive à s'en sortir, parce que c'est quand même beaucoup plus puissant qu'une hyène, mais comme ils arrivent à beaucoup et mordre en même temps, ça a l'air d'être très organisé, les hyènes.
Oui, c'est des canidés. Les canidés vivent toujours en groupe. Ils ont un sens de la famille surdéveloppé. Et en fait, la fameuse bataille entre les lions et les hyènes, elle est vraie dans la nature. Tout ce que chasse un lion, une hyène peut le chasser.
Ah oui, d'accord.
Donc du coup, ils sont en concurrence directe sur le territoire. Et généralement, des endroits où il y a beaucoup de lions, bah, il n'y a pas d'hyènes. Et des endroits où il y a beaucoup d'hyènes, il y a peu de lions.
Ah, ok.
Mais les territoires bougent tout le temps, donc c'est régulier qu'il y ait... Il y a des affrontements entre les deux.
Alors, rien à voir avec les rumeurs sur les animaux, mais petite question, les lions, est-ce qu'ils ont des prédateurs, à part les lions? Et les hommes?
Non, effectivement, il y a les hommes. Les buffles sont redoutables pour les lions. Il faut savoir que le buffle représente une source de nourriture énorme pour les lions. Ils peuvent, pendant une semaine, se contenter d'un buffle. Surtout pour une famille, pour une famille de 10-12 lions, chasser un buffle, c'est une semaine de nourriture tranquille. Mais les buffles sont aussi très puissants. C'est les animaux presque les plus dangereux avec les hippopotames et les éléphants. Et quand une famille de lions décide d'attaquer un buffle, ils savent qu'ils se mettent en danger de mort. Et il y a plein d'histoires, et d'ailleurs dans le documentaire, vous en verrez une, de lions qui se sont fait tuer par les buffles.
Il y a des vidéos sur Internet de 10 buffles sur un lion qui le jette en l'air.
Bien sûr.
Et qui ne le lâche pas, quoi.
Les buffles sont d'une puissance incommensurable. C'est vraiment impressionnant.
Les girafes ne peuvent pas vomir à cause de leur cou trop long.
Alors,
est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux?
Moi, j'en ai jamais vu vomir. De là à dire que c'est une vérité générale, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que la girafe est très handicapée à cause de son cou. Parce que quand elle boit, elle est obligée d'écarter les pattes. Elle fait pratiquement un petit grand écart. Elle va baisser sa tête et c'est le moment où tout le sang va descendre au cerveau. Et donc, elle ne peut pas rester trop longtemps la tête en bas. Sauf que les lions et les léopards savent très bien ça. Et c'est le moment où ils décident d'attaquer. Et donc, avant de voir une girafe boire, il y a tout un cérémonial de 20 à 30 minutes où elle regarde à droite, à gauche, elle renifle.
Elle fait attention, quoi.
Elle fait très, très attention. Ouais.
Ah, parce que c'est bon, il attaque au niveau de sa tête.
Ouais. Ils lui maintiennent la tête en bas, du coup, elle s'évanouit et elle ne peut plus se défendre.
Mais sinon, une girafe, ça ne peut pas vraiment se défendre non plus, si?
Un coup de sabot d'une girafe dans la tête d'un prédateur, c'est
Même létal. Un lion?
Ouais, c'est létal. Ouais, ouais.
Ah, c'est vrai?
Ouais.
Heureusement qu'elle a un peu de défense d'ailleurs. Il paraît que le guépard, lorsqu'il chasse, passe 50% de son temps au-dessus du sol, tellement qu'il saute. Il paraît qu'il est vraiment comme un vol, en fait.
Oui, ça ne m'étonne pas. Le guépard, ça fait du 115 km/h en 3 secondes, à tel point que moi, j'ai déjà vu une ou deux fois un guépard en sprint. L'œil humain n'est pas capable de suivre un guépard sur les premiers mètres, tellement...
Ah, ça bondit.
Ça va vite, quoi. Ouais.
Ah, c'est vrai.
Et la particularité du guépard, effectivement, c'est qu'il a plutôt un taux de réussite en chasse élevé. Mais son problème, c'est que dès qu'il a attrapé sa proie, il est tellement épuisé qu'il lui faut 30 minutes pour récupérer. Parce qu'il a donné un effort incroyable. Énorme, ouais. Et à ce moment-là, bah, y a les hyènes, les chacals, qui viennent lui prendre sa proie. Et du coup, c'est pour ça que bah, les populations... Une des raisons pour lesquelles les populations de guépards sont en train de chuter, c'est sa difficulté à chasser dans des territoires où il y a de plus en plus de hyènes, de chacals, de léopards, de lions. Il est en concurrence avec eux.
Ah, parce que les hyènes augmentent, elles, par contre, en Afrique, il y en a de plus en plus.
Suivant les régions du monde, les populations de hyènes, effectivement, augmentent.
Lors d'un danger imminent, ça c'est un truc qu'on connaît tous, les autruches, on dit faire l'autruche, rentrent leur tête dans la terre.
Non, ça c'est faux.
C'est faux, c'est vrai, parce que justement, je me suis dit, on n'en a jamais vu, en fait, mettre la tête dans la terre.
Non, ça, c'est une légende.
Faire l'autruche, on connaît faire l'autruche.
Ouais.
Ça, c'est faux.
Totale légende, oui, oui.
Ah, c'est marrant, ça. Bon, c'est pas très exotique, mais je me disais que c'était une bonne question, tu vois.
Et le jeu de tous les photographes animaliers, le 1er avril, c'est de mettre une photo d'autruche, la tête dans le sable.
Ah, c'est vrai.
Ouais. On est drôle, là, chez les photographes animaliers.
Il paraît que les femelles hyènes ont un pénis.
Alors, les femelles hyènes ont un énorme clitoris.
Okay.
Et donc, effectivement, quand le clitoris est en excitation, on a l'impression qu'elles ont un pénis.
Ah oui, ouais. Ok, quasiment aussi gros, quoi. Ouais. Les hippopotames, alors, j'ai lu ça, mais ça ne corrélait pas avec ce que tu nous avais raconté l'autre fois. Les hippopotames ne savent pas nager.
Tout à fait.
Alors, j'en vois toujours dans l'eau rattraper des bateaux, tu sais, très rapidement.
Non, non, les hippopotames ne savent pas nager, ils n'ont pas de palmes au niveau des doigts. Donc, en fait, pour se déplacer sous l'eau, pour charger, par exemple, ils vont expulser tout l'air des poumons, ils vont tomber au ras de l'eau, enfin, ils vont tomber au sol, et ils vont courir sous l'eau. Et c'est ça, en fait, qui crée la vague. Et après, ils vont remonter au dernier moment. Mais quand tu les vois stagner avec, tu sais, juste les yeux et le museau, en fait, ils sont sur leurs deux pattes arrière. Et,
en fait,
et
ils ont pieds.
Oui, ils ont pieds, ils ont pieds. Ouais.
Ah, OK, putain, c'est fou. Je ne savais pas, parce que je me rappelle, tu t'étais fait attaquer, non,
ouais.
On avait parlé par un hippopotame. Les rayures du zèbre servent à hypnotiser les prédateurs qui les regardent.
Alors, c'est partiellement vrai. Il y a plusieurs explications concernant les rayures des zèbres. Ce qui est assez dingue quand tu es dans la brousse et que tu vois des zèbres, c'est de te rendre compte à quel point ils ne ressemblent pas aux autres antilopes dans leur façon de se camoufler. Tu prends les impalas, les grands koudous... toutes les gazelles, toutes les antilopes, les gnous sont plutôt feu, sombre, tu vois, et du coup se camouflent assez bien dans la brousse. Les zèbres, c'est blanc et noir. Donc pourquoi ils sont comme ça? Alors il y a plusieurs explications. Effectivement, l'une des explications, c'est que quand ils sont en groupe et qu'ils bougent en cas d'attaque, ça crée une sorte d'illusion d'optique, et du coup les lions n'arrivent pas à identifier un des individus.
Okay.
Donc bon, parfois ils y arrivent quand même, mais ça leur sert d'échappatoire. Une autre raison qui est donnée, c'est pour éviter d'avoir trop de mouches sur eux. La vision des mouches face aux rayures du zèbre est presque floue, et du coup, les mouches n'arrivent pas à se poser
sur
le zèbre. Et une troisième raison, mais j'ai un peu du mal à y croire, mais elle est donnée, c'est sur la chaleur. C'est-à-dire que le noir va attirer la chaleur et le blanc va avoir tendance à la faire ressortir, et du coup, c'est comme ça qu'ils régulent leur température.
Ok, ça c'est moins...
Bah après, c'est les informations
que les
scientifiques, que les guides se donnent, mais à aucun moment, il y a un zèbre qui est venu nous voir pour nous parler de tout ça.
Alors, il y a une autre rumeur sur les animaux aussi, c'est que les éléphants pourraient entendre avec leurs pieds.
Alors, les éléphants peuvent sentir énormément de choses avec les vibrations du sol, avec leur trompe. C'est notamment grâce à tous ces sens qu'ils arrivent à trouver l'eau parfois, comme les éléphants du désert, ou en Namibie, où l'eau peut être parfois à 2 mètres, 3 mètres du sol, et ils savent exactement que c'est à cet endroit qu'il faut creuser pour avoir le plus de chances de boire. Après, oui, ils ont des pattes très particulières.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Les éléphants, ils arrivent à ressentir des vibrations et je pense que ça leur aide à se déplacer, à trouver les bons endroits pour trouver de l'eau, trouver la nourriture. Ouais.
Et dans les choses vraiment originales sur les animaux, il y avait que les éléphants pouvaient se gratter le ventre avec leur sexe.
Alors la fameuse cinquième patte de l'éléphant qu'on voit régulièrement dans la brousse, ouais. Effectivement, bon, quand les éléphants sont en rut, ils sont en érection et leur sexe touche pratiquement par terre, quoi.
Ah oui, d'accord.
Et donc, j'imagine qu'ils peuvent se gratter le ventre avec leur sexe.
On a vu ça dans les anecdotes sur les animaux un peu objets et on s'est dit, tiens, c'était intéressant de te la poser si t'avais vu ça. Déjà, ils pouvaient bouger pour se gratter, j'en sais pas si c'est pour les mouches ou quoi, mais c'est assez intéressant. On va faire un truc, si tu veux bien. Avant de parler du cliché parfait, on a un truc assez drôle à te montrer. Faire un petit blind test juste sur les cris d'animaux.
Ouais.
Voir si tu reconnais vraiment, parce qu'on s'est rendu compte que les animaux avaient des cris très différents, notamment dans la jungle. Est-ce qu'aujourd'hui, tu serais capable de les reconnaître sans les voir ?
Expression.
Non, mais j'imagine qu'en vrai, ça ne va pas être très compliqué pour toi. Si tu as vraiment autant l'habitude, ça va vraiment être très simple. Je vais le mettre maintenant. Je te mets juste le son. Je le dirige vers mon micro, comme ça, vous pouvez l'entendre chez vous. Quel est cet animal ? C'est facile.
Ah oui.
On dirait un dessin animé, quoi.
C'est une hyène tachetée, ça.
C'est un chacal.
Hein ? Attends, quoi ?
Je crois, hein. En tout cas...
Attends, remets-le. Ça, c'est un chacal. Et ça, c'est une hyène.
C'est vrai ?
Oui. Oui. Au tout début, c'est un chacal et le « ouh », c'est une hyène.
Waouh. Wow. Ouais. Juste le petit son.
Ça, c'est un chacal.
Ça, c'est un chacal, t'es trop fort, gars. Attends.
Et en fait, c'est pas étonnant, c'est qu'en général, quand il y a un kill, donc une carcasse, c'est l'endroit où plein d'animaux se retrouvent. Donc les chacals, les hyènes, les vautours. Donc ça m'étonnerait pas que
c'est
cet
le buffet,
enregistrement voilà, se soit fait.
D'accord. Deuxième animal. C'est parti. Pas facile, gars. Non, attends, t'as fait un truc trop dur, en vrai.
Attends, donc c'est forcément un oiseau. Non, je sais pas.
C'est un pigargue à tête blanche. Non, mais je crois qu'il...
Ah, alors, c'est l'autre nom de l'aigle pêcheur, mais ça, c'est pas son cri, la pigarde.
C'est vrai Bon, bah alors, attends, peut-être qu'on s'est trouvé, ça descend, alors. Attends, c'est pas grave.
La pigarde à tête blanche, c'est l'aigle pêcheur African Eagle, qui est un animal somptueux et qu'on voit sur les bords des rivières, ouais.
Alors, attends, on y va, on continue. Qu'est-ce que c'est ?
L'autre cri d'une hyène, oui.
Exactement. Ouais, exactement. Ouais. C'est marrant, on dit on rigole comme une hyène, mais c'est ça en fait. Ouais, c'est vraiment ça.
Les vocalises des hyènes diffèrent énormément. La première hyène qu'on a entendue avec le chacal, c'est plus un cri pour ramener les autres hyènes, pour dire les gars, on a trouvé une carcasse, quoi. Ça, ce cri-là, c'est plus quand il y a des affrontements entre les hyènes elles-mêmes.
D'accord.
Donc c'est un rire, mais c'est quand même utilisé dans les moments de tension, quoi.
Autre animal. Bon, c'est pas compliqué celui-là. Là, on t'en a mis un facile, gros.
L'éléphant.
Évidemment. Attends, vas-y. Hop, attends, on remet celui-là.
Ah, c'est les lions, ça.
Ouais. Effectivement.
Non, mais attends, vous êtes allé chercher ça où ?
Bah, dans Jurassic Park. Parce qu'en vrai, le cri du lion, je pense qu'ils l'ont pris, ils ont fait de la distorsion de son pour en faire dans les... Je pense que les Jurassic Park, ça doit être des vrais cris d'animaux qu'ils ont distordus, grossis, étirés, etc. Machin.
Bah, je dirais hippo.
Un rhinocéros. Est-ce
que non, ça... vraiment, je... Si, oui, peut-être. Oui, effectivement.
Peut-être.
Peut-être. Ouais, peut-être.
Bon, là, il faut.
Un hippopotame, bah, ça y est. On dirait le mec qui dit la mer noire. La mer noire. Ça veut dire pas, il dit hippo. Bah oui, c'est toi. Non, 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 en vrai.
Ça sort d'hippo.
La mer noire. Alors, attends. C'est un buffle. Est-ce que ça, tu reconnais un petit peu
Moi, je te ferai écouter des sons de buffle.
Ouais, ouais, je crois que... Écoute, nous, on a pris sur Dailymotion en 144p, frérot. Le son, il était très, très loin. Le micro, il était... Il n'y a plus de pile. Non, écoute, il y aura un dernier jeu après.
Okay.
Tu vas essayer... Je vais te montrer des petits bouts de photos, des bouts d'animaux. Et tu vas essayer de deviner, vous, chez vous aussi, vous essayez de deviner quel est l'animal à qui appartient ce petit bout, voilà. Et c'est, vous allez voir, c'est vraiment très difficile aussi, mais je pense que tu vas être très très fort là-dedans. Tu les as tellement vus, tellement photographiés. C'est quoi le plus compliqué quand tu pars en, là, tu es parti en expédition pendant plusieurs jours, voire parfois semaines, quand tu étais en Afrique. Qu'est-ce qui est le plus difficile en réalité lors d'une expédition pour toi, qui est photographe animalier
L'une des étapes qu'il ne faut pas négliger quand on part en reportage animalier ou faire un documentaire animalier, c'est toute la préparation, l'investigation qu'il y a avant, qui dure parfois pendant des mois. Ça va être une investigation pour raconter une bonne histoire, mais ça va être aussi une préparation pour savoir à quel point on peut s'approcher d'un animal pour ne pas le déranger et pour ne pas se mettre en danger. Donc ça, c'est ce qu'il y a, je pense, c'est une étape qu'il ne faut absolument pas négliger quand on est photographe animalier. Et puis après, les difficultés vont être multiples quand on est sur le terrain. Ça va être la lumière, ça va être trouver l'animal. Comme moi, je m'intéresse aux animaux en voie de disparition, bah, par définition, en général, ils sont durs à trouver dans leur milieu naturel. Donc ça va être trouver les bons guides, suivre les traces, trouver où sont les animaux. C'est vraiment pas facile. Ouais.
Et donc ça peut te prendre parfois combien de temps sans rien avoir? Ça t'est arrivé de partir 10 jours et de ne rien trouver? Par exemple, les gorilles ou un autre animal, tu ne les trouves pas?
Le jaguar, en Équateur. Je suis parti il y a quelques années pour essayer de photographier le jaguar, qui est le plus gros félin d'Amérique du Sud, et en plus un animal ultra photogénique. Et je m'étais rendu dans la partie amazonienne de l'Équateur, et j'avais placé des caméras trappes qui se déclenchent au passage d'un animal un peu partout pour maximiser mes chances de trouver le jaguar. Et puis pendant des jours, on n'a rien. Je perds énormément de caméras à cause des pluies qui bousillent mes batteries, qui bousillent mes flashs. Et puis aucun passage. Et puis le dernier jour, je vais voir mon dernier appareil photo qui fonctionnait. J'ouvre la boîte, je regarde et là, je vois que ça a pris plus de 250 photos. Et là, je me dis, bah, c'est sûr, il doit y avoir le jaguar. En fait, c'était une chauve-souris toute la nuit qui avait tourné autour. Donc, j'ai 250 photos de chauve-souris prises au flash. Elle était ravie de se faire prendre en photo. Mais par contre, j'ai toujours pas trouvé le jaguar. Toujours pas.
Ah oui, t'es rentré sans l'avoir trouvé. T'es rentré bredouille.
Bredouille.
Ça t'arrive.
Bah oui, bien sûr. Même pas de traces. Mais après, j'étais dans un environnement tellement magnifique. Avec,
en centre-ville, du coup, il a pas vu le jaguar.
Il y avait les haras, il y avait les anacondas, les caïmans, les tapirs, il y avait... plein de singes, donc ça m'a permis de faire quand même des photos sympas, mais effectivement, le roi de l'Amazonie, je ne l'ai pas trouvé.
Est-ce que tu as un regret, une frustration d'une expédition où tu as vu quelque chose d'incroyable et où l'appareil photo a buggé, où il y a eu un oiseau qui est passé entre toi et la scène, j'en sais rien, et quelque chose que tu n'as pas pu immortaliser alors que tu as vu quelque chose d'incroyable?
La première fois que je suis allé photographier les grands primates, okay. C'était les orang-outans à Sumatra. Et j'avais ramené tout un matériel en me disant ils vont être en haut des arbres, donc il me faut ce qu'on appelle des grandes focales, donc des grands zooms pour essayer de les avoir. Et pendant plusieurs jours, on a marché dans cette forêt tropicale, donc dans le nord de Sumatra, qui est une forêt magnifique, Gunung Leuser. Et en marchant, le dernier jour, on trouve les orang-outans. Sauf qu'en fait, les orang-outans venaient nous voir. Ils étaient comme curieux, ils étaient à quelques mètres de nous. Et moi, j'avais mes énormes zooms, je faisais que me reculer, et eux venaient me voir, et notamment une femelle et son petit, qui étaient très, très curieux, et qui nous regardaient, qui s'approchaient, qui nous reniflaient. Le petit jouait avec nous, il apportait un bâton, et il nous le mettait devant pour qu'on le tire, et qu'on joue à qui est le plus fort. Bon, c'était lui qui gagnait tout le temps. Et finalement, bon, après, j'ai changé d'objectif, j'ai pris un 50 mm, qui est...
L'œil humain.
Exactement, l'œil humain. Et du coup, bah, j'ai fait des photos où, voilà, c'est pas du zoom. Du coup, ça donne des images vraiment uniques, puisqu'on a l'impression que l'orang-outan est à côté de celui qui regarde la photo, quoi. Et c'était le cas.
Wow. Je vais te montrer des photos. Tu vas devoir deviner de quel animal il s'agit, à savoir que je te montre que des bouts, d'accord ? Premier animal, qu'est-ce que c'est que cet animal-là ? C'est hyper difficile, on a vraiment fait des zooms, des salopards.
Non, mais vous allez croire que je fais la mer noire, mais ça ressemble quand même vachement à une bouche d'hippopotame. Non, mais franchement,
je m'attendais à ça.
Waouh. Franchement, c'est pas simple.
Ah ! Non, non, mais j'avoue, c'est pas
simple. Un gorille ! Parce que je vois le dos argenté derrière.
Tu vois le dos argenté où ?
Là ? Non, non, non. En fait, bon, on est d'accord que ça, c'est sa bouche.
Oui.
En bas à droite, il y a de l'argenté un peu.
Eh ben, c'est une excellente réponse. C'est ça ?
Ouais, ouais, ouais.
Wow, bien joué. Ah ouais, c'est vraiment sur le détail. Non, mais là, on a fait un vrai truc hyper, hyper dur et tout. Attends.
J'ai une angoisse avec vos jeux maintenant, c'est terrible.
Qu'est-ce que c'est que ça ?
Alors, tu te fous de ma gueule. Arrêtez! Un hippopotame.
Il pouvait pas.
C'est pas un hippopotame, je quitte ce studio tout de suite.
Il pouvait pas. Il pouvait pas mieux tomber, l'hippo. Effectivement, c'est un hippopotame, bravo.
Yes.
Ah là là, c'est pour rire. C'est impressionnant, il a la dent de travers. Hein.
Ouais, les hippopotames se battent beaucoup. Et d'ailleurs, c'est assez marrant de se dire pourquoi les animaux qui sont des végétariens ont des dents aussi importantes, aussi puissantes, et c'est uniquement pour se battre.
On voit qu'il a des traces.
Ouais,
hein.
Exactement. Des traces plaies, de combat, ouais.
Ah ouais, ça se bat beaucoup. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est vraiment très zoomé. Hein.
C'est une langue. Est-ce que je peux voir ?
Bien sûr. Il y a un petit indice.
C'est impossible, mais déjà, elle est ultra pixelée.
Bah ouais, parce qu'en fait, on a vraiment zoomé dedans.
Non, là, je peux, je sais
pas. Tu peux pas.
C'est un animal que t'aimes. Ça ressemble à un félin, non ?
C'est un animal que t'aimes beaucoup. Ouais. On voit les petits picots sur la langue. Une langue de lionne. Qu'est-ce que c'est que
Éléphant.
Ça ?
Éléphant.
Non.
Rhino ?
Rhino. Ouais, c'est l'un ou l'autre. En vrai, ils ont les mêmes yeux, non ?
Pachyderme. Ouais.
Quelle est la particularité ? Qu'est-ce qui t'a marqué, toi, chez les rhinos, qui a pu en prendre en photo, en filmer ? Qu'est-ce qui t'a le plus marqué chez les rhinos ?
Moi, j'ai une histoire un peu particulière avec les rhinos. C'est des animaux... je me sens très proche des rhinocéros, ça peut paraître bête de dire ça. Mais en fait, mon premier souvenir de vie sauvage, de faune sauvage, c'est avec un rhinocéros. À 8 ans, j'ai eu la chance d'aller en Namibie. Et le soir, à un point d'eau... j'avais vu une grande femelle rhinocéros avec à ses pieds, à son flanc, un tout bébé qui avait une grande cicatrice sur la cuisse arrière droite. Et je me souviens de cette image, je me souviens de tout l'environnement, les pierres qui roulaient quand la femelle avançait avec son bébé. Et en fait, 12 ans plus tard, moi je suis devenu guide en Namibie. Et donc mon but, c'est de trouver des animaux pour les touristes, pour les clients. Et mon premier tour en tant que guide, on va dans ce même parc, et là, on passe une journée horrible où on ne voit rien. Et je vois que mes clients ne sont pas très contents, quoi. Et je décide d'aller dans ce même point d'eau dans lequel j'étais allé 12 ans auparavant et où j'avais vu cette femelle avec ce petit. Et donc, il fait nuit, on attend 15, 20, 30 minutes. Et puis, on entend le bruit des cailloux qui bougent, comme il y a 12 ans. Et là, on voit un énorme rhinocéros avec une belle corne qui se dirige vers le point d'eau, et il a sur sa cuisse arrière droite une cicatrice.
Ah, waouh !
Donc en fait, comme je te l'ai expliqué, les rhinocéros sont des animaux plutôt routiniers, qui font plus ou moins le même circuit toute leur vie. Et effectivement, il y avait des grandes chances pour que le tout bébé que j'avais vu avec sa cicatrice soit le grand et majestueux rhinocéros. Et puis l'histoire ne s'arrête pas là, elle devient un peu plus triste, malheureusement. Il faut savoir qu'une fois que j'avais vu ce rhinocéros 12 ans plus tard, chaque année, je retournais guidé au même endroit et je le revoyais année après année qui allait au même point d'eau. Et du coup, j'avais tissé une sorte de... Enfin, il n'y avait que moi qui avait tissé ce lien. Ce rhinocéros, je ne savais pas du tout qui j'étais, mais ça me faisait plaisir de revoir ce rhinocéros et puis de le voir grandir. Et puis, l'année dernière, je suis parti faire un tournage avec le youtubeur Cyril MP4 en Namibie.
Qu'on embrasse fort, d'ailleurs. Et qui en a fait le documentaire sur Auschwitz.
Ouais. Et on est retourné... dans ce point d'eau. Et le problème, c'est que la veille, on avait entendu qu'il y avait eu un massacre dans le parc d'Etosha où une dizaine de rhinocéros s'étaient fait tuer pour leurs cornes. Les braconniers tuent les rhinocéros pour récupérer la corne qui revendent plusieurs centaines de milliers de dollars. Et je suis retourné à ce point d'eau, j'ai attendu toute la nuit et je n'ai pas retrouvé mon rhinocéros. Bon, moi, je préfère m'imaginer qu'il est parti au fin fond du parc avec une jolie petite femelle rhinocéros et qu'ils ont plein de bébés. Mais il y a quand même un risque, effectivement, qu'il se soit fait tuer par les braconniers quelques jours avant que je revienne sur ce point d'eau.
Et aujourd'hui, ils luttent contre les braconniers, les gardes là-bas. Ils ont une technique, ils les décorent eux-mêmes. C'est vrai, ça ?
C'est ça. Là, justement, il y a quelques semaines, pour un tournage, j'ai assisté à l'écornage d'un rhinocéros. Alors, il faut savoir que ça ne fait pas souffrir l'animal, puisque c'est comme de l'ongle. C'est comme quand nous, on se coupe les ongles.
Il n'y a pas de nerf.
Non, il n'y a pas de nerf, exactement. Et la première raison qui explique le déclin des rhinocéros, c'est le braconnage. Et la deuxième raison qui explique la mort des rhinocéros, c'est les rhinocéros eux-mêmes qui se battent et qui s'écornent et qui se tuent. Donc en écornant le rhinocéros, on augmente les populations. Et ça se voit très concrètement. Les réserves qui font de l'écornage voient leur population de rhinocéros blancs et rhinocéros noirs augmenter. Les réserves qui ne le font pas n'ont plus de rhinocéros.
Ah là là !
Ouais.
Donc ils les endorment ? Comment ils font pour arriver à les approcher ?
Alors, ça se passe généralement très très tôt le matin. Il y a d'abord un petit avion, un Cessna, qui survole la réserve et qui repère le rhinocéros. Ensuite, il y a un hélicoptère qui part, et avec un vétérinaire à l'intérieur, et qui flèche le rhinocéros pour l'endormir. Une fois que le rhinocéros est endormi, là, il y a les équipes de vétérinaires qui arrivent, qui écornent le rhinocéros, ça dure une trentaine de minutes, ils le réveillent, et le rhinocéros
ça lui fait
repart,
pas mal, et
repart faire sa vie. Alors, évidemment, moi, si tu me poses la question, bah, ça me serre le cœur de voir un rhinocéros sans cornes. Sauf qu'aujourd'hui, c'est la seule solution possible pour que nos enfants, nos petits-enfants, puissent voir des rhinocéros. Peut-être qu'un jour, la mode de la corne en Asie passera et on n'aura plus besoin de faire ça. Il faut savoir que ce sont les lodges comme Mopaya, qui m'a accueilli pendant mon tournage, qui payent avec l'argent du tourisme les écornages. Ils ne sont pas aidés par l'État. Et donc, c'est grâce aux bénéfices du tourisme qu'on arrive à avoir encore des populations de rhinocéros blancs et noirs en Afrique du Sud.
Ils en font quoi, des cornes, l'État, comment ils les coupent ?
Alors, toutes les cornes sont rapatriées dans une banque à Pretoria, où elles sont gardées, coffre-fort, numérotées.
Ils ne les brûlent pas
non.
Ou ils les... Pourquoi ?
Non. Je pense qu'il y a une volonté derrière que le marché de la corne devienne un jour légal, et que ça permette peut-être de supprimer le trafic, de dissoudre les groupes insurrectionnels, les groupes militaires. Mais il n'y a pas vraiment d'explication.
Voilà. Qu'est-ce qu'ils en font des cornes ? Tu parles des Asiatiques, le marché asiatique. Pourquoi ils en veulent, ces cornes-là ?
Alors, il faut savoir que l'accouplement d'un rhinocéros dure 45 minutes, parfois une heure. Donc il y a une légende chez les populations asiatiques, des traditions qui pensent que la corne de rhinocéros a des vertus aphrodisiaques. Mais encore une fois, c'est de la kératine, c'est de l'ongle, c'est du cheveu, quoi, c'est des poils serrés. Donc tout ça, c'est de la, c'est oui, de la légende, c'est des traditions. Mais c'est super difficile de lutter contre des traditions, très difficile.
Incroyable. Est-ce qu'il n'y a que les Asiatiques qui consomment aujourd'hui les cornes ou il y en a d'autres aussi ?
Non, la demande vient vraiment du marché chinois, vietnamien et sud-coréen, principalement.
Ça coûte très cher, une corne, parce que tu dis qu'il y a du braconnage, donc c'est quand même des choses qui coûtent cher. Et ils prennent des risques aussi, les braconniers, de se faire arrêter. J'imagine que ça doit être très grave en Afrique de se faire arrêter pour braconnage. C'est excessivement cher, une corne de rhino ?
Aujourd'hui, le kilo de poudre de rhinocéros se revend entre 70 000 et 90 000 dollars US. Et ce prix a tendance à augmenter en plus. Et dans une corne, on peut trouver 5, 6, 7 kilos de kératine.
Wow.
Donc ça se revend, tu vois, pratiquement à un demi-million de dollars.
Ah ouais, okay. C'est pour ça que c'est vraiment... Il y a des hommes armés qui protègent un peu ces populations ?
Bien sûr, les rangers, les guides qui protègent leurs propres réserves, qui protègent leurs propres rhinocéros, sortent pratiquement tous les soirs de pleine lune, puisque c'est pendant ces soirs-là qu'on a une bonne visibilité sur la brousse, et les braconniers en profitent, et ils sortent avec leurs fusils pour se faire... pour essayer de faire fuir les braconniers, quoi.
Et parfois, ils se tirent dessus, vraiment ?
Bien sûr.
Toi, t'as pas peur de tomber sur des braconniers ?
Ça m'est déjà arrivé d'être dans des réserves où le soir, on entend des coups de feu, et on sait pourquoi il y a ces coups de feu. Il y a effectivement un risque. Après, je sais pas quoi te dire, ça fait partie des enjeux. Et effectivement, moi, j'essaye toujours d'aller dans des endroits où il y a des histoires à raconter sur la faune. Quand on va dans Masai Mara, au Serengeti, qui sont les endroits un peu classiques du safari animalier, bon, bah là, c'est pratiquement le zoo, quoi. Si on veut vraiment voir des animaux sauvages, si on veut vraiment raconter des histoires, il faut parfois, pas se mettre en danger, mais aller dans des endroits où il se passe des choses, quoi.
Et t'as déjà eu des fois où tu as eu peur, où tu t'es trop approché d'un animal, où tu t'es dit, tiens, j'aurais pas dû, où tu vois qu'il s'est d'un coup redressé, ou... est-ce que tu as déjà fait des frayeurs à vouloir aller toujours plus loin, j'imagine, toujours plus près pour faire une jolie photo ?
Non, j'ai déjà été surpris par des animaux, par des attaques d'éléphants, par des charges de lions. Bah, le fameux Belzébuth dont je t'ai parlé, là, lors du documentaire, quand on s'est approché de lui, il nous a chargé.
Pour terminer, quel est l'animal que tu n'as jamais photographié que tu aimerais faire ? Ce serait quoi ton prochain objectif ?
Moi, je rêverais d'aller en Chine pour photographier les pandas. Parce que les pandas représentent... pour moi, le panda est vraiment un symbole de la protection animale. Bon, déjà, c'est l'emblème d'une grande association de protection animale, mais aussi la réussite pour sa conservation avec les populations de pandas qui augmentent petit à petit. Et puis, prendre un panda en photo à l'état sauvage, ça a été quasiment pas fait. Enfin, en tout cas, de mémoire, j'ai pas de photo en tête. Ou alors par des caméras trappes. Donc, moi, j'aimerais bien aller trouver les pandas dans les provinces du Sichuan, notamment, pour aller les photographier et aussi raconter l'histoire de tous ces vétérinaires, tous ces conservateurs, ces rangers qui vouent leur vie à protéger ces pandas. Des rangers, d'ailleurs, des vétérinaires qui sont obligés de s'habiller eux-mêmes en panda en se mettant de l'urine de panda sur leur costume pour pouvoir les approcher.
Ouais, exceptionnel.
Ouais. Ouais. Donc, il y a plein de choses super à raconter sur ces animaux.
Quand tu pars comme ça dans des expéditions assez incroyables, t'as jamais envie de rester vivre dans un pays, justement, là-bas ?
Je me suis posé la question il y a quelques années. J'avais terminé ma première école et je guidais déjà. Et je me suis dit, bon, bah, je vais rester un an en Afrique australe et voir si j'ai envie de faire ça toute ma vie. Et puis, je me sentais pas chez moi. Même si j'étais super heureux quand j'étais dans la nature, quand je voyais des animaux, c'était vraiment... Et encore maintenant, j'ai vraiment des doses de bonheur énormes quand je suis à l'état sauvage avec les animaux dans leur milieu naturel. Mais il y avait quelque chose qui voulait me faire revenir en France, quoi.
Ouais, c'est pas chez toi quand même si t'adores y aller, en gros.
C'est ça.
Pour terminer, quel est ton prochain projet ? C'est quoi on peut s'attendre si on va sur tes réseaux ? Je vous mets d'ailleurs, pour terminer aussi, je vous avais dit, les liens en cliquable sous la vidéo. Donc, on va mettre l'Instagram, on va mettre la chaîne YouTube aussi, dont tu nous as parlé tout à l'heure. Et qu'est-ce qui va arriver dessus ?
Alors là, dans les prochaines semaines, alors il y a une... Je pense qu'au moment où ça sera diffusé, cette vidéo, je vais pouvoir le dire, je suis...
On l'a ça en 2026, donc vraiment...
Il n'y aura plus de rhinocéros à ce moment-là.
Dédicace à vous tous, si vous la regardez en 2026, parce que parfois les vidéos, bah, elles durent des années sur YouTube. Vous pouvez mettre un petit commentaire avec l'année à laquelle vous nous regardez, je trouve ça assez marrant, tiens.
Oui, je suis depuis quelques jours ambassadeur de la marque Canon, et en fait, il n'y en a que 100 Bravo. En Europe, au Moyen-Orient et en Afrique. Et donc, j'ai été sélectionné, donc je suis super content, parce que... Bah, ça montre que mes pairs ont jugé mon travail.
Félicitations. Voilà.
Donc, merci beaucoup. Donc ça, je suis très content. Et puis, dans les jours, semaines à venir, je vais partir là au Botswana avec un YouTuber pour un tournage. Ensuite, je vais aller photographier les ours polaires dans la baie d'Hudson au Canada.
Ouais.
Et puis, il y a des meutes de loups aussi que je vais essayer de trouver. Après, je pars au Festival de Montier pour faire une exposition. Et puis, je termine en Inde pour photographier les tigres. Ah, et en janvier, je vais voir les gorilles avec Noolito.
Putain, énorme. Ah ouais,
ouais. Okay, okay,
okay. Putain, tu voyages vraiment, tu auras des miles, mon pote. C'est des sangos. Et je voulais aussi le lien, si vous avez aimé le travail, on vous a montré pas mal de photos et d'illustrations durant cette émission. Il y a ton livre qui s'appelle Green and Wild, dont vous en avez parlé. Je vous remets le lien pour ceux qui veulent le commander, pour ceux que ça intéresse et qui aiment ça. 10 ans de reportage, du coup, par Mathieu Courdet, c'est aux éditions Dashbook. Je vous mets tous les liens en cliquable. Merci de vous abonner de plus en plus nombreux. Je sais que vous arrivez en masse. On est vraiment content d'être avec vous toutes les semaines sur ce média. Il y a 3 émissions qui sortent, le mercredi, le vendredi et le dimanche. Et merci beaucoup d'être venu. Peut-être qu'on te reverra dans un an. Tu nous raconteras les
avec
nouvelles.
Avec plaisir.
C'est rigolo de se suivre comme
ouais,
ça.
Ouais, ouais.
Merci beaucoup, Mathieu Courdet, d'être passé.
Ciao.
Légende Podcast.
My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then... Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.
This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue check mark next to that thing you love and be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.
Vous venez d'écouter un épisode de Légende. Retrouvez cette interview et toutes les autres sur nos réseaux sociaux, YouTube, Instagram, Snapchat et TikTok. Vous tapez Légende, L-E-G-E-N-D. Et si vous avez aimé ce podcast, abonnez-vous et pensez à lui mettre 5 étoiles. Merci.